Bonsoir chers auditeurs, chères auditrices, on est de retour sur Radio Panique 105.4 avec la team All We Need Is Acid et c'est parti pour une heure de pur fun confiné. Et on est de retour sur la planète Acid avec la team All We Need Is Acid 105.4 Radio Panique. Comment allez-vous toute la team?
Bonjour tout le monde.
Ah, ça me fait plaisir de voir. Bon, comment s'est passé confinement?
Bah, c'est fini.
Oh. Ouais, ça se déconfine tranquille.
Très bien.
Moi, je me balade en maillot de bain avec mon masque. Du coup, je suis toujours autorisée à sortir.
Ok.
Moi, je m'évade en musique. Du coup, le confinement, je le connais pas.
C'était le message qu'on voulait entendre, Indira.
Allez. Merci.
Souvenez-vous, le dernier épisode, on avait discuté des prémices du DJing et du turntablisme. Donc, on avait écumé un petit peu son origine, d'où ça venait et comment ça en avait évolué. On s'était arrêté un petit peu à la fin des années 80. Mais avant qu'on reprenne notre voyage, on va faire un petit tour de table. On commence avec notre mama acide, Indira. Salut, Indira.
Salut, de nouveau.
Ensuite, on a notre nouveau chroniqueur qui est arrivé à la dernière session, Guillaume. Salut Guillaume.
Coucou les amis.
Et enfin, un tout jeune nouveau poussin qui vient nous rejoindre dans l'équipe et qui va nous emmener dans le turfu. Et c'est bien
moi,
Romain.
C'est moi.
Salut Romain.
Direct à l'arrivée en haut du classement.
Exactement. Et toujours, comme d'habitude, fidèle au poste, Hélène, qui va nous faire son petit quiz surprise. Allez, on reprend. Donc, souvenez-vous.
Et Bébelle.
Et moi,
salut, Bébelle.
Et donc, souvenez-vous, nous nous étions arrêtés la dernière fois à la fin des années 80. On avait parlé du DJ, l'essor, Grandmaster Flash, les World DMC, le scratching et tout ça. Mais là, on va rentrer dans une nouvelle ère, l'ère de l'électronique, la musique électronique. Donc, dans les débuts des années 90, fin années 80, on a les toutes premières raves. Donc, cette fois-ci, le DJ se fout complètement de trouver un lieu réglementé, s'il veut faire la fête là où il le veut, là où, quand il le veut, avec qui il le veut, et trouve des endroits un petit peu désaffectés, monte un sound system rapidement, envoie des flyers à droite à gauche, fait passer le message à ton copain, et c'était le début des toutes premières rêves. Ces premières rêves ont vu lieu. Elles ont vu une naissance justement à Berlin-Est. Donc on avait avec par exemple les fameux dans les années 88-89 les Technosis qui étaient d'ailleurs les précurseurs des Mayday. Et puis après, au-delà des rêves, il y a eu d'autres formats de types de rêves. On peut penser par exemple en France, en 1993, avec les Technival, les choses comme ça, qui étaient organisées à l'époque par Spiral Trap, qui elle était, on va dire, un petit peu plus champêtre, où c'était au milieu des champs. Au-delà des rêves, est apparu aussi les Love Parades, qui avaient été créées avec par Dr. Mort et Westbam en 89. Et donc là, c'était un rassemblement dans la rue de tous les festivaliers, de tous les toughers qui s'initiaient juste au nom de la paix, de l'amour, de la fête et paradaient dans toutes leurs villes respectives pour célébrer leur amour pour la musique électronique. Et donc, au final, avec tout ça, il y a eu en fait une transition et une évolution un petit peu du DJ où en fait le DJ, au-delà... les DJ étaient au-delà de devenir, on va dire, se remettre au centre des boîtes de nuit et repasser à l'underground. C'est-à-dire que le DJ a permis l'essor de la musique électronique en se replongeant dans des environnements qui étaient peu médiatisés, en créant son identité et en imprégnant l'identité de la musique et en définissant ce qu'on va dire les fondations maintenant de la musique électronique actuelle à travers des tests, des initiatives artistiques. Mais il y a un autre point aussi qui apparaît à la fin des années 80 et 90 et qui va vraiment former le DJ de maintenant, c'est l'itinérance. Si vous vous souvenez, donc là j'ai parlé un petit peu de la Love Parade, des Technival qui sont des festivals où jamais, souvent, ça ne se passait deux fois la même chose, au même endroit, pardon, le DJ devient itinérant. Donc c'est-à-dire que par exemple les soirées qui étaient organisées à Berlin pouvaient aller bouger à Stuttgart, les crews de Stuttgart bougeaient à Cologne. Ça a commencé un petit peu comme ça à Berlin, puis après souvenez-vous avec la zone Schengen, avec l'espace Schengen, ça a créé un flux de fêtards qui était incroyable. Maintenant, on pouvait faire la fête partout où on voulait en Europe, en Belgique, en Hollande, en Allemagne, avec seulement sa carte d'identité. Et le DJ a suivi ces soirées-là et est devenu itinérant. Mais pour continuer un petit peu notre escapade temporelle, dans les années 90, au-delà de créer l'identité de la musique électronique, le DJ aussi commence de plus en plus à comprendre un peu comment on fait le star system. Et c'est vraiment au milieu des années 90, avec des DJ du style Fatboy Slim, Sacha, bien d'autres, ou Laurent Garnier, qu'on commence vraiment à voir l'émergence du DJ rockstar. C'est-à-dire que les DJ sets vont commencer à atteindre des sommets en termes de cachet et on va avoir toute une faune qui vit autour de ces DJ-là. Donc les agents, les promoteurs, les directeurs artistiques de boîtes de nuit. Et oui, car c'est un métier qui est né aussi dans les années 90. Avant, c'était juste le directeur de la boîte de nuit qui faisait la pluie et le beau temps. Et on va vraiment atteindre donc on retrouve ainsi les codes de l'industrie de la musique classique comme on a pu avoir avec le rock, la pop ou autre. Et il y a un style dans la musique électronique qui va vraiment tout exploser à l'époque, c'est-à-dire c'est la French Touch. Elle n'a pas cherché forcément à garder nécessairement son aspect underground et qui va justement très rapidement prendre une ampleur grand public au point de faire des tubes qui passent à la radio, qui sont promus au même titre que le dernier CD de Céline Dion. On peut nous penser notamment à Daft Punk, on va penser aussi par exemple Superman Lovers, Stardust, tout ça c'était plus réservé, on va dire, à des aficionados de la musique électronique. C'était même maman, elle achète le single pour le mettre dans le break. Et donc c'est là.
Il y a avec un live à la Tour Eiffel aussi quand même.
Exactement. On est vraiment sur le star system. Donc c'est ça qu'il faut reconnaître aussi la French Touch. Elle a permis de créer son propre style et tout ça, mais elle a créé aussi vraiment, la démocratisation et concrète de la musique électronique underground.
Est-ce qu'on sait si la French Touch elle a touché autre chose que la France?
La French Touch, alors on en a un petit peu parlé. La French Touch, en effet, elle a touché un peu partout dans le monde. Elle a été très appréciée, notamment aux États-Unis, car elle se rapprochait de plus en plus. Elle s'inspirait avec beaucoup de codes de la house traditionnelle de Chicago. Et en Angleterre, un petit peu avec la acid house. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y avait une grosse migration des DJ français vers l'Angleterre à une époque, au début des années 90, et qui sont revenus avec leur bagage, donc notamment avec la culture anglaise, dans leur vinyle, mais aussi avec avec tout leur carnet de réseau. Donc, il y avait beaucoup de DJ anglais qui venaient faire la fête en France. Où est-ce que j'en étais ? Oui. La fin des années 90 avec la French Touch. Il faut savoir qu'à l'époque, les cachets pouvaient atteindre facilement les 120 000 euros la soirée. Et c'est vraiment à la fin des années, le nouvel an pratiquement, entre l'année 1999 et 2000, où en fait, le Star System avait connu un petit peu une gueule de bois. Et il y a eu un petit peu, on va dire, un calme plat en termes de révolution culturelle sur le DJisme, on va dire. Mais c'était sans compter de l'autre côté de l'Atlantique avec l'EDM, où Everything is Bigger in the USA. Et ils ont repris en fait tous ces codes. Donc l'EDM, l'Electronic Dance Machine, ont repris tous ces codes-là d'Europe et ont repris en fait ce star system-là. Et ensuite, on va dire complètement... comment dire ? Ont complètement extrapolé ça avec des super festivals,
bien commercial,
ultra commercial, avec des
bons spectacles,
une production à l'américaine, c'est-à-dire qu'on va marketer aussi beaucoup beaucoup le DJ. C'est eux qui, on va le voir un peu plus avec Indira juste après, mais c'est eux qui ont participé à vraiment à mettre en avant le DJ comme une rockstar et le tel quel. C'est un style de vie, c'est faire rêver la vie de DJ quoi. Donc tout ça pour en venir que le DJ, le show du DJ, il a bien évolué en 10 ans. Il a été aussi, c'est les soirées aussi de DJ, en fait, entre guillemets, les soirées électro ont été aussi, on va dire, un petit peu perturbées par différentes lois qui ont été passées parce que la fête et le clubbing a été ensuite, aux années 90, a vraiment permis d'institutionnaliser le clubbing et la fête telle qu'elle est. On peut penser par exemple aux lois sur les décibels dans les boîtes de nuit. Donc à l'époque, en Belgique, par exemple, la loi sur les 90 dB maximum en boîte a été posée en 77.
Sacrilège.
Mais en 2018, par exemple, on la revoit maintenant, elle est passée à 85. Mais,
oh, wow.
Mais c'est par exemple en France, où on était un peu plus tardif dans les festivals, où on est passé de 105, on est passé au début à 105 dB, et maintenant en 2015, on est passé à 102 dB. Donc voilà, donc il y a vraiment une institutionnalisation en fait, de la fête, elle est reconnue telle quelle, avec des vraies lois, et on la reconnaît même pour les raves. En France, il y avait des circulaires qui étaient données par la direction générale de la police, qui reconnaissaient les raves comme des activités illégales. Donc, on va dire, au-delà du conscient culturel, l'État reconnaissait aussi le clubbing. Et à partir des années 2000, le clubbing et la musique électronique est vraiment fait part comme un style, un mouvement, et un groupe sociétal distinct qui n'était plus underground complètement. Et on le voit maintenant. Tout ça pour conclure un petit peu qu'au final, bah, le DJ, maintenant, bah, c'est plus tant que c'est avant. Alors, je ne dis pas que c'est mieux ni rien, je ne vais pas faire du jeune et je ne vais pas faire le vieux réac ni rien. Il y a en fait une transition complètement de la classe moyenne des DJ qui tout simplement n'existe plus comme on avait eu dans les années 90. Maintenant, on a soit des très grosses stars à cacher, un gros cachet comme on va voir avec Indy, soit il y a ceux qui galèrent à joindre les deux bouts et qui multiplient les casquettes. Et voilà, il y a des tonnes et des tonnes, des tonnes et des tonnes de DJ, des tonnes de soirées organisées. Donc il y a énormément une multiplication, on va dire, phénoménale du nombre de soirées électroniques. Et il y a beaucoup, beaucoup de monde. Donc voilà, on a perdu un petit peu ce côté underground de la musique électronique, même s'il y a des artistes qui sont plus expérimentaux que d'autres. Et on a une popularisation complète du système, enfin de la musique autour de l'électronique. Mais ça a permis aussi de faire émerger toute une, on va dire, toute une vague de passionnés et de musiciens. Et Indy, je pense que tu voulais nous détailler un petit peu qu'est-ce que c'était pour... On a parlé un petit peu du DJ dans les années 80-90, mais qu'est-ce que c'est que maintenant un DJ ? Parce que ça a bien changé depuis.
Ouais, tout à fait. Alors oui, comme tu dis, c'est différents types de DJ de nos jours, et il y en a même beaucoup. Donc là, on n'a pas le temps. Donc moi, j'ai fait ça sous forme de trois parties pour différencier, on va dire, les types de DJ qui existent. On va dire maintenant, comment on pourrait appeler les DJ contemporains. Donc, on va avoir les premiers, comme tu disais, qui sont essentiellement dans l'EDM, où c'est les DJ commerciaux les plus connus, comme va y avoir Avicii, David Guetta, Tiesto, Bob Sinclair, etc. Donc, ce sont des DJ qui sont connus, qui gagnent de l'argent, qui gagnent des centaines de milliers d'euros à chaque fois par date, à chaque fois aux quatre coins du monde, dans des lieux toujours assez... incroyable, du style Ibiza, Las Vegas, etc. Ensuite, ils sortent aussi des featuring avec des artistes aussi mondialement connus dans la pop, donc comme Rihanna, Kanye West, Snoop Dogg, et qui ont des millions de vues grâce à ces featuring sur YouTube. Donc, j'ai pris l'exemple numéro 1, quand même, qui est très connu depuis des certaines années, c'est David Guetta. Donc, lui, à la base, c'était... figure de la nuit parisienne dans les années 80, qui a fini maintenant par créer ses propres soirées à Ibiza. Lui, maintenant, il vit à Miami. Il est devenu producteur reconnu à l'international, du coup, par ses gros titres. En 2011, il a été élu DJ le plus populaire du monde par le magazine DJ Mag. Et sa dernière petite action qu'il a faite du coup pendant le confinement que j'ai pu voir, c'est qu'il a mixé du coup pendant 1h30 sous forme de concert caritatif. Et il a récolté en fait en 1h30 $60 000, $600 000 pardon, de dons pour les donner à des assos comme l'OMS, Feeding America et la Fondation Hôpitaux de Paris. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est vraiment impressionnant, impressionnant et pour moi, pardon, je vais être précise, ridicule à la fois, parce qu'il est vraiment tout seul autour de plein de buildings. Il a une immense piscine et il n'y a absolument personne à part justement l'équipe qui le filme, etc. Mmh. Et il est là en train de faire le show. Après, il y a les gens qui sont quand même dans le balcon. Et il crie comme dans tous ses shows, on a l'impression. Il est là à lever les bras, à crier avec son micro et à dire genre « Give me money !»
C'est vraiment... N'oubliez pas, chers auditeurs, alors, voilà. Si vous voulez faire ça demain à votre patron, allez-y, ça marche.
C'est clair, je me demande vraiment si tous les DJ arriveraient à gagner. Enfin, c'est quand même incroyable de te dire que tu gagnes, tu arrives à avoir autant d'argent juste en regardant David Guetta mixer. Enfin,
ouais, non, c'est énorme. C'est quand même une énorme traction. Et puis, c'est un pari de lancer ça, de dire que tu vas récolter quelque chose. Tu sais pas c'est quoi à la fin.
Ah oui, c'est sûr que pour le coup, mais c'est quand même impressionnant aussi de te dire qu'il est capable de faire ça et de récolter autant d'argent en 1h30. Moi, c'est ce qui. Mais oui, effectivement, après, moi, je trouve ça bien de sa part d'avoir fait ça. Et voilà, au moins. Mais bon, tu te dis que. Enfin, bref. Donc, voilà. Après, j'ai pris l'exemple de Tiësto. Donc, c'est un Hollandais qui, lui, a commencé au début par faire des fêtes. Il a mixé dans des fêtes d'école quand il avait 14-15 ans, puis il a commencé à jouer dans des petits clubs aux Pays-Bas. Donc lui, au début, c'était tourné à créer des morceaux plutôt hardcore, gabber, trance. Il a lancé, il a créé des labels, des morceaux, des EP. Et puis d'un coup, il s'est tourné à partir de 2010 dans l'EDM. Et à partir de ce moment-là, il est vraiment devenu très connu. Et il a gagné beaucoup d'argent. Et c'est là que sa carrière, du coup, a vraiment pris un gros tournant. Et à partir de là, il a commencé à jouer dans les JO d'Athènes en 2004, en 2008... en 2012, et il a été également aussi élu, mais attention, plus grand DJ de tous les temps par DJ Magazine, ce fameux même magazine, que je ne connais pas d'ailleurs.
Car on sait très bien que les Hollandais sont très grands.
Donc voilà, ces deux types d'exemples qu'on a sur justement, c'est des DJ qui mènent un peu comme cette vie de rockstar, mais de nos jours. Donc, c'est-à-dire être booké partout dans le monde, être la star de la soirée, boire ce qu'on veut, avoir la drogue, avoir du sexe aussi avec qui on veut. Mais souvent, cette routine entraîne quand même ces artistes à connaître ses côtés négatifs, comme l'isolation, les rythmes de sommeil irréguliers, des longues semaines, abus d'alcool, de drogue, etc. Et on a justement, encore dans ce milieu de l'EDM, le DJ Avicii, comme on dit, qui est un Suédois et qui a fait en fait une overdose ou alors, non pardon, une dépression il me semble, dans un hôtel à l'âge de 28 ans alors qu'il avait fait une carrière pendant 5 ans. Oui, c'est une dépression, pardon. Mais justement, il avait déjà eu en fait des cas précédents où il a fini à l'hôpital à cause d'overdose ou des cas comme ça durant sa carrière. Donc, faut pas non plus penser que être DJ, c'est la vie d'une. Voilà, enfin, c'est un peu la vie de rêve.
C'est pas la panacée.
La popularité, c'est à double tranchant.
Bébel, tu disais justement que tu avais qu'il y avait un peu. Un reportage sur Avicii.
Il y a un reportage sur Avicii justement qui dure, je crois, une heure et quart, et en fait justement qui explique sa vie du début à la fin, où il a connu littéralement en fait une ascension fulgurante, fulgurante, c'est le terme. En un an, il remplissait des stades, il était adulé partout, ses fans. Et en fait, par contre, ils l'ont littéralement trait à la moelle, quoi. Genre, ils l'ont l'épisode où par exemple il était il avait je crois une infection au rein et une semaine plus tard le mec il le remettait en tournée lui-même ne voulait pas prendre de vacances, enfin il avait la pression de tout le monde, il se foutait la pression lui-même, mais il avait la pression aussi de sa maison de disques, et au final ça fait des c'est complètement déséquilibré quoi.
Oui, c'est ça.
Dirait,
et c'est pas le seul à avoir
subi ça. Pas en tournée.
Oui, c'est ça. C'est un peu le même style. Là, on parle des DJ qui sont dans l'EDM. Il existe aussi, évidemment, des DJ qui sont quand même très connus et qui vivent très bien aussi d'une vie un peu similaire, mais dans d'autres styles. Donc, on va avoir les styles techno. Donc, on va avoir Jeff Mills, Ben Clock, Nina Kravitz, Marcel Detman, Len Fakey, ou bien dans la house, on aura Carl Cox, Robert Hood, Moody Man, et d'autres, etc. également en tech house ou dans d'autres styles évidemment, mais ici on aura Joseph Caprietti, Panpot, Maceoplex, Solomon.
Donc chaque style d'électro, enfin chaque style électronique a ses mégastars en fait.
Voilà, c'est ça, exactement. Mais là, effectivement, ceux-là, quand même, après, je ne connais pas le prix de tous ces DJ, sont quand même moins chers que si tu bookes David Guetta ou Tiesto dans ton festival. Ça, je pense qu'on est sûr, c'est sûr même.
C'est marrant de savoir le fonds de roulement de Tomorrowland.
Ouais, ouais. Le budget qu'il doit avoir aussi.
Ouais.
Bah, tu dis qu'un mec comme Tiesto, il prend 250 000 euros de la soirée. Il doit y avoir quoi ? Il doit y avoir peut-être une centaine d'artistes, peut-être, là-dedans.
Ça touche presque le million, je dirais. Hein. Peut-être
Le budget doit être fou, quoi.
Ouais. Après, ils attendent aussi, je crois, bien 300 000 personnes, voire plus. Hein, donc, c'est...
Oui.
Je crois que le billet est dans les 300-400 euros.
Apparemment,
du
c'est...
Coup, ça, après, bon, tu comptes tout ça, ça va vite. Mais bon, c'est quand même hallucinant. En tout cas, ça a dû être bien annulé cette année, hein, parce que c'est pas très corona comme événement. Ensuite, du coup, la catégorie numéro 2 que j'ai mis, c'est donc simplement, j'ai mis les autres DJ. Je savais pas trop comment les nommer, même si c'est, on va dire, mes préférés. C'est ceux qui sont dans la catégorie où ils sont, bah, du DJ coup, DJ... on va dire ça, ouais. Qui, du coup, comme tu disais tout à l'heure, Bebel, c'est qui vivent de ça aussi, mais qui vont donner un peu plus d'engagement, en fait, pour vivre avec ce métier et dans ce domaine-là. Donc, on va avoir ceux qui vont être, par exemple, moi, je suis catégorisée aussi en global Electro House, donc AZF, Louisa, Antigone, Varg, Donato Dodi, bon, c'est quelques exemples. En house, j'ai mis Medzig, Octo-Octa, Uni, Malgrab, Black Madonna. Donc ça, c'est des artistes qui vont également sortir des EP, créer des labels, être du coup producteurs, organiser des événements et qui vont aussi également mixer un peu partout dans les clubs et dans les festivals. Donc tout ça, c'est vraiment leur moyen de tenir leur carrière et qui vont être quand même aussi des personnes assez engagées, qui vont quand même être des personnes où quand ils vont créer ces événements, ces labels, vont découvrir des artistes émergents, des jeunes talents, faire naître des tendances. Et parfois aussi, c'est des DJ qui sont moins connus, mais qui vont rester aussi dans leur, qui vont aussi rester, on va dire, dans leur zone, donc soit leur pays ou leur continent au maximum. Et donc j'ai choisi aussi des exemples où on va avoir des scènes locales, comme par exemple la scène de Düsseldorf avec le club Le Salon des Amateurs. Donc c'est avec le label Camp Doblé qui organise souvent des soirées là-bas avec DJ Normal 4, Aki Aki, Wolf Müller. Ensuite, on va avoir en Italie une boîte qui s'appelle Tease Production qui organise des événements essentiellement à Milan et qui organise le festival Terraforma. Donc on va avoir souvent dans ces événements-là, on va retrouver Donato Dodi, Lorenzo Senni, Caterina Barberi. Et enfin, à Paris, on va avoir, par exemple, pour moi, c'est très très regroupé de pas mal de DJ parisiens, c'est le festival de DJ AZF qui s'appelle Qui Embrouille. Donc là, on va retrouver vraiment, pendant 3 jours, un festival où on retrouve quasiment que des DJ parisiens, essentiellement ceux qui se retrouvent chez Rins France. Et enfin, on va avoir la troisième catégorie. Donc ceux qui sont qui sont vraiment pas très connus et qui sont plus du tout dans cette catégorie-là à être célèbres et qui ont des millions de vues, etc. Là, ça va être ceux qui vont être les DJ du village, de la fête foraine, pour les enterrements, pour officialiser des matchs de sport, de mariage. Et donc, évidemment, je vais citer deux exemples que j'ai pu trouver qui sont... assez atypique. Donc, on va avoir le DJ de la campagne électorale de Benoît Hamon en 2017. Donc, c'est... on le connaît un petit peu. C'est l'organisateur des free parties et des openers à Paris depuis des dizaines d'années qui s'appelle Antoine et qui, en fait, a pour habitude de lui vraiment mixer que pour les free. Et là,
oui,
en fait...
C'est le type de microclimat, c'est ça ?
Oui, c'est ça, pardon. Je voulais dire, c'est microclimat, ouais.
C'est trop cool, ça.
Donc, en fait, on lui a proposé de jouer durant les élections, enfin, un meeting durant les élections de Benoît Hamon. Donc, il a accepté. Et lui, il a pris ça vraiment un peu à la rigolade. Et c'était la première fois, en fait, qu'il faisait ça. Donc, lui, il a commencé à passer des morceaux de funk, de house, vraiment très joyeux. Et il a fini par être apprécié. Apparemment, ça a plu. Donc, on lui a rappelé une deuxième fois, une troisième fois pour faire deux autres meetings. Et donc, lui, en fait, il a commencé à vraiment s'amuser, à mettre des morceaux. Par exemple, il a mis à un moment donné « Passe, passe le ouinge » de NTM ou « Bella Ciao » pour justement passer des messages un peu politiques derrière, on va dire, ces morceaux un peu ironiques. Surtout quand c'est pour une élection de présidentielle. Donc ensuite,
Maître Gims, un message politique.
Non, pas
Maître
Gims.
Non, le vrai, NTM. Le vrai. Bien sûr,
Oui.
D'accord.
Oui, le. Enfin, je la connais pas, mais il me semble que c'est la l'original.
Ouais.
L'autre exemple que j'ai, c'est le DJ officiel de Fédération Française de Football. Donc, lui, c'est quelqu'un qui apparemment a été bon, quand même sélectionné pour être DJ. Apparemment, il s'appelle Dove. Il a été nommé DJ officiel de la FFF. Et donc, le but, c'est de poser les plus gros sons français auprès de 80 000 personnes par match avec l'équipe de France.
DJ Zombination.
Exactement, donc c'est le but, c'est de passer des morceaux de Queen, de Pharrell Williams, de David Guetta, toujours que des gros titres pour que tout le monde puisse chanter. Et en fait, le but et l'intérêt de ce DJ, qu'on oublie facilement, j'imagine, c'est vraiment mettre l'ambiance et faire danser tout le monde. Sinon, en fait, ça se passe mal pour lui à chaque fois, parce qu'il y a un débrief apparemment à chaque fin de match.
Et Indy, est-ce que tu as un petit morceau à nous faire découvrir?
Alors oui, ça change totalement de tout ce que j'ai parlé. C'est un morceau d'un groupe qui s'appelle Her Theater. Donc c'est de l'album qui s'appelle Trinity. Le titre que j'ai choisi s'appelle Preservation. Et en gros, c'est un groupe avec une chanteuse américaine qui sort en fait des EP chez Pan Records. Celui-ci a été sorti en 2019. J'aurais du mal à expliquer le morceau, mais c'est un morceau avec de la vocale et un style très étrange avec sa voix qui fait un peu voix d'opéra, électro et des sonorités trap. Voilà, je vous laisse écouter et vous me dites si vous avez aimé.
Interesting.
Allez, c'est parti, on s'écoute ça tout de suite.
Et on est de retour sur Radio Panique 105.4 avec la team Olwini Dizacid. Et c'est l'heure de la chronique d'Hélène. Alors Hélène, fais-nous rêver. Que veux-tu nous dire?
Alors, moi, je vais vous parler d'un sujet qui préoccupe, je pense, tous les Belges et Belges, à savoir comment trouver un bon nom de DJ.
Eh oui.
Donc, évidemment, Guillaume Bellage, notre présentateur, avait déjà abordé le sujet lors de son tutoriel « Comment devenir un DJ sa transformation en DJ Citron », qui était lors d'une précédente émission. On vous postera, en fait, le numéro de l'émission. Mais il nous a paru donc intéressant de nous replonger dans cette science obscure et pourtant si fondamentale qu'est le « naming ». En français, ça donne la nomination ou l'attribution d'un nom, quoi. Donc, selon le site Digital DJ Tips, il suffirait de suivre 7 préceptes assez simples pour trouver un bon nombre de DJ. Donc, je vous en donne maintenant la liste. Alors, leur premier conseil, c'est d'essayer avec votre propre nom. Donc, c'est assez classique, mais c'est finalement pas con parce que ça a pu marcher pour certains de nos DJ les plus célèbres. Ensuite, tu peux essayer avec une variation de ton vrai nom. Donc, encore une fois, il fallait y penser. Et alors, pour donner un exemple, par exemple, tu t'appelles Guillaume, hein, c'est un peu rare comme prénom, mais ça arrive. Et ben, tu peux essayer Guigui.
Voilà. Yes,
c'est
tellement une porte qui s'ouvre là d'un coup.
Ouais, je comprends. Mais c'est ce qu'on appelle une variation. Donc, on appelle ça aussi un surnom, hein, évidemment. Si les deux premiers, les deux précédents, en fait, ne fonctionnent pas, alors là, tu utilises ton surnom, mais plus, en fait, un surnom, par exemple, Poussin. Si ta mère t'appelle Poussin, bah, tu peux éventuellement dire « Ah tiens, c'est mon surnom, pourquoi pas essayer Poussin ?»
DJ mon gros lapin.
Voilà, DJ mon gros lapin par exemple. Donc ça, vraiment, c'est vraiment une mine d'or à conseils, ce site. C'est impressionnant. Alors, malgré tout, il faut faire en sorte que ce soit facile pour la radio à dire, à la fois pour les chroniqueurs, mais à retenir aussi pour les auditeurs. Du coup… en tant qu'homme et femme de radio, je vous laisse juger par vous-même de la pertinence d'une telle recommandation. Ensuite, l'idée, c'est qu'il faut choisir un nom de DJ pour chaque style que tu vas jouer. Donc, pour votre set techno, il faudra un nom. Pour votre set disco, un deuxième nom, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, là où ça devient un peu tricky, c'est que pour chaque nom, il va falloir vous reporter au début de la liste pour, évidemment, choisir un bon nom de DJ. Ensuite, le sixième conseil, et pas des moindres, c'est de s'assurer que le nom n'est pas déjà pris. Donc ça paraît évident comme ça, mais on sait jamais. Des fois que tu t'appelles, par exemple, David Guetta, mais avec un seul T, enfin, voilà. Disons que ça peut tomber mal.
Je suis déjà en train de chercher DJ Poussin.
Ouais, ou par exemple. Et bien là, du coup, tu te dis, ah non, flûte. Et ça... Mais c'est pas grave, parce qu'il y a toujours le septième point. Et le septième point, c'est qu'il faut demander à tes amis, et le site précise bien qu'il faut que ce soit des amis et pas des groupies, il faut leur demander si le nom est bien. Et ensuite, donc, tu vas découvrir par la même occasion qui sont les amis faux cul, dont tu devrais mieux te séparer parce que tu n'as pas besoin de mauvaise énergie dans ta vie. Et ça, c'est mon petit conseil. Alors, une fois qu'on a fait comment ?
C'est très important de ne pas écouter ces groupies. Hein.
Non, non, bien sûr, bah, on sait tous, on en a tous tellement, on sait tous, voilà, qui sont...
qui sommes-nous.
Alors, une fois qu'on a fait tout ça, on n'a pas beaucoup avancé, c'est-à-dire que pour les gens comme moi qui n'ont pas de surnom, un nom véritable qui sonne plutôt plat et pas tellement fête à Ibiza et champagne rosé, j'ai trouvé un site qui fait tout le boulot à votre place, qui s'appelle en fait fantasynamegenerators.com et qui va en fait générer un nom aléatoire en français ou en anglais. Ça marche pour les DJ, mais ça marche aussi pour les noms d'elfes, enfin pour plein de trucs, quoi. C'est vraiment intéressant. Et du coup, j'ai essayé plusieurs fois. Et alors, parmi mes préférés, il y a donc DJ Aventure. Je trouve que ça fait un peu base de loisirs, mais c'est sympa, ça donne envie. Ensuite, on a DJ Friction. Et là, on sait que ça va un peu secouer. On a DJ Marbre, c'est vraiment donc pour jouer sur Radio Classique.
T'es sûr que c'est pas un dictionnaire ton application en fait
Non, alors c'est des vrais mots, mais c'est ça qui est vraiment marrant, c'est qu'en fait il y a quelqu'un qui a fait une sélection de mots pour mettre, je veux dire, c'est pas tous les mots du dictionnaire, il y a quelqu'un qui a fait une présélection.
Ah, tu veux dire qu'il y a un mec qui a vraiment pris le dictionnaire, ouais. Le petit Robert qui allait un an, il a fait ah ça, ça c'est oui. Badass.
Ça non.
Celui-là on prend pas.
Exactement. Et on a mon préféré, donc c'est sans DJ, c'est juste Hannibalistique. Moi, je trouve ça très cool. Ça fait un peu genre Hannibal le cannibale et balistique. Ça a un petit côté porno, mais je trouve que tu peux difficilement faire plus lourd dans le game. Du coup, pour terminer avec cette chronique, je voudrais seulement vous dire qu'il existe une quantité importante sur Internet de guides pour trouver votre nom de DJ. Mais moi, je préfère vraiment les générateurs et autres tests de personnalité. Et alors d'ailleurs, j'ai moi-même, je me suis soumise à un test de personnalité sur le site rumandmonkey.com. Et alors, c'était un test d'environ 10 minutes sur une quantité de questions qui ne concernaient absolument pas mes goûts musicaux. Et donc, moi, je serais DJ Thundercat. Voilà. Donc, je sais pas. Ça fait aussi un peu porno.
Très Power Rangers.
Ouais, un petit peu. Et en même temps, un peu chelou. Donc, voilà, je vous laisse apprécier la qualité de ces recommandations et merci de m'avoir laissé la parole.
Donc, vous imaginez bien qu'il y a un avant et un après pour Hélène depuis cette chronique qui veut qu'on l'appelle maintenant Thundercat.
Bah, personne ne le fait parce que c'est le confinement. Enfin, c'était le confinement. Et du coup, voilà. C'est dommage que... C'est bien, je le fais à la maison, mais... C'est pas très suivi, quoi, pour l'instant.
On va essayer de lancer ça de façon intensive après la reprise. Bon, bah merci Hélène.
Mais avec plaisir.
Merci Hélène.
Allez, on passe à notre petite chronique matos avec Guillaume. On avait commencé avec le vinyle la dernière fois. Où est-ce que tu nous emmènes cette fois-ci?
Alors, c'est vrai que j'avais fait un petit rétrospectif de technologie jusqu'à la platine vinyle. Et en fait, on s'était un peu arrêté à ça parce que jusque dans les années 90, il n'y a pas vraiment d'autres matos qu'avoir deux bonnes platines techniques et un mixeur quand t'es DJ, quoi. C'est un peu le seul matériel que t'as à ta disposition. Et on avait d'ailleurs brièvement parlé du scratch, qui était un peu une technique qui a vraiment explosé dans les années 80-90 avec les DMC. Et ce que j'ai essayé de voir aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on enfin où est-ce qu'on en est aujourd'hui, quoi. Quelle a été l'évolution un peu du matos de DJ. Et je pense que forcément beaucoup de gens doivent connaître le standard international qu'est la CDJ manufacturée par Pioneer.
Qui est présent dans tous les clubs maintenant, en fait.
Voilà, c'est littéralement tous les clubs en ont. Les clubs les plus riches ont la dernière, la 2000 Nexus 2. Et puis les plus pauvres comme au Cheval Marin, on se retrouve avec une CDJ 1000. Mais c'est toujours le même principe.
C'était
non mais ça marche toujours et c'est toujours le même principe et je vais revenir là-dessus. C'est un principe qui moi commence à me gaver un peu, mais il faut se dire qu'à une époque quand t'es arrivé à CDJ, et je pense que peu de monde se rappelle qu'il a fallu attendre 2001 pour avoir vraiment une CDJ qui fonctionne, quoi, qui puisse être utilisée professionnellement. La première CDJ est sortie en 1994. Mais je vous conseille d'aller taper CDJ 500 dans Google si vous n'en avez pas, enfin si vous ne connaissez pas vous-même à quoi ça ressemble. Et ça plus, enfin ça a vraiment la gueule d'un jouet. Et je peux comprendre pourquoi les professionnels ont attendu la CDJ 1000 pour commencer à s'en servir professionnellement dans les clubs. Et en fait, la CDJ, c'est vraiment quelque chose qui permet de jouer comme si vous étiez sur vinyle, mais avec des CD. On se retrouve avec un plateau qui imite le plateau vinyle. On peut forcément faire play, pause. Il y a une toute nouvelle fonction qui s'appelle cue, qui permet du coup de caler ses sons beaucoup plus facilement que sur vinyle. Et c'est d'ailleurs ce qui vaudra à la CDJ d'être complètement décriée à son apparition en 2001. Il faut se rendre compte que quand c'est arrivé en 2001, tout le monde pointait du doigt la CDJ comme étant un truc de noob, que c'est pour les gens qui étaient pas real, qui savent pas mixer. Et vraiment, il y a eu ce côté snob envers la CDJ qui a duré très longtemps. Et en fait, c'est qu'à partir de 2004, après énormément de boulot de l'équipe marketing de Pioneer, que ça a vraiment commencé à prendre. Et je pense que le moment où ça a vraiment explosé, c'est quand, en 2007, on a enfin pu mettre une clé USB, en fait, sur ces CDJ. Et donc, en fait, pouvoir avoir directement ces MP3 sur sa clé USB et arriver et juste brancher ça sans avoir à graver de CD.
Ou même avant ça, apporter toute sa caisse à vinyle qui faisait 10,5 tonnes et la trimballer partout dans le monde.
Bah ça, je pense que ça a drastiquement changé un peu la vie du DJ, hein, la CDJ, parce que on est passé en effet de la caisse de 10 kilos à comment un petit album de CD à une clé USB qui tient dans la poche, quoi.
Donc, mais clairement, est-ce que tu penses que
tu deviens le premier raciste qui peut vraiment arriver au boulot les mains dans les poches?
Ouais, voilà, littéralement. Mmh. Tu peux arriver les mains dans les poches, tu branches ta clé et c'est parti. Tu disais, Hélène ?
Est-ce que tu penses que ça a fait chuter, pour le coup, le chiffre d'affaires des gens qui vendaient des valises à roulettes ?
Probablement, oui. Je pense qu'il y a eu un énorme lobbying, d'ailleurs, et c'était probablement eux, en fait, qui insultaient les gens qui utilisaient CDJ en 2001. Faut jamais écarter ce genre de complot.
On se souvient encore du soulèvement de la Samsonite en 2009.
Bah, oui.
Ça a fait.
Non,
bah. Exactement. Bref.
D'ailleurs, le classeur ACD a complètement chuté derrière.
Mais pire que tout. Enfin, je veux dire, qui connaît encore une boîte de classeur ACD en 2020?
Cette fameuse colonne qui était dans le salon, là. Et plus elle était remplie, plus t'avais la classe.
Ouais, moi, j'avais le dé qui s'ouvrait, le truc bien dégueulasse en plastique.
Oh.
Ah. Il y en avait toutes les qualités, ça.
Et du coup, un truc qui m'avait vraiment marqué, en fait, c'est qu'il y a une super vidéo que je te donnerai le lien, Hélène, qu'on puisse le mettre avec, avec l'émission, en fait, qui explique un peu l'histoire de la CDJ. Et dans cette vidéo, on voit Carl Detken, le lead marketing de Pioneer back in the days en 2005, qui disait en 2008, du coup, « People just want something that works, that's reliable, and something they don't need to relearn », en parlant de la CDJ. Et il se trouve que ce qu'a dit ce mec il y a 10 ans, c'est toujours vrai, enfin il y a 10 ans, il y a même 12 ans, on est vieux, c'est toujours vrai en ce moment, et on se retrouve un peu dans cette, dans ce local optima où tout le monde utilise la Pioneer CDJ en club. Alors que si on regarde un peu ce qui s'est passé dans la dernière décennie, même les deux dernières décennies, il y a un truc génial qui s'est développé, c'est tout type de contrôleur. Il y a une boîte qui me tient particulièrement à cœur qui s'appelle Native Instruments, qui a fait un taf formidable pour en fait simplifier l'accès au DJing à tout le monde en créant des all-in-one comme le peut être la Traktor S4, et qui te permettent en fait d'avoir directement avec ton ordi et ce contrôleur tout comme si tu avais quatre voix, un mixeur, une banque d'effets, c'est juste, t'as besoin de rien de plus pour mixer. Et il se trouve que la même rancœur, cette même snobisme qu'on avait appliqué au CDJ, on le retrouve maintenant sur les gens qui utilisent des contrôleurs. Et c'est con parce que autant la S4, elle est pas très innovante, autant il y a d'autres contrôleurs qui arrivent sur le marché qui ont vraiment un côté hybride et qui commence à bridger le gap entre du pur live et un pur set. Je vous conseille par exemple de voir une super vidéo de DJ Tech Tool avec DJ Craze qui vient avec un X1, deux platines vinyles et une machine faire 10 minutes de folie. Avec vraiment un truc formidable avec des cuts et chops de partout et tout ça avec un contrôleur X1, et ça montre un peu vraiment où on peut en venir quand on utilise de manière créative en fait les nouveaux outils qui se limitent pas à la CDJ.
Après, il y avait toujours un petit peu la guerre des contrôleurs, c'est qu'elle a aussi facilité le beat matching drastiquement,
ouais.
De synchroniser, donc ce qu'on appelle le beat matching, c'est la synchronisation entre deux tracks, et avant qui demandait vraiment une finesse et un doigté et une oreille, là on se retrouve avec juste un bouton qui synchronise les deux morceaux. Et en fait, les nouvelles générations de DJ, ou même les DJ maison entre guillemets, qui achetaient ces contrôleurs là étaient reprochés de justement d'être juste des playlists humaines, quoi.
Mais alors déjà, j'ai presque envie de dire un DJ, le DJ CDJ qui vient de dire que bouton sync sur Traktor, avec tes cues et ton BPM sur ton track, enfin je veux dire, il y a rien à faire, quoi. C'est pas plus dur. C'est pas parce que tu sais appuyer sur un bouton Q que d'un coup ça te fait de toi un meilleur DJ. Forcément, il y a ce côté vraiment super impressionnant et agréable hein, de regarder quelqu'un qui mixe vinyle et qui mixe vinyle des genres particulièrement compliqués. Quoi. Un mec qui vient mixer de la break vinyle devant toi, c'est toujours impressionnant, c'est cool. Mais et j'en trouve le plaisir à regarder ça, mais au final, moi, les podcasts que j'écoute quand je travaille ou les trucs qu'on écoute en club où je vois même pas le DJ, ils pourraient être en train de faire ça sur un ukulélé tant que ça me fait danser. C'est l'important quoi. Je mets plus d'importance sur les fins que sur les moyens quoi. Et une dernière chose que je veux dire, c'est je conseille un super article sur DJ Mag qui est sorti récemment, qui s'appelle A Decade of DJing, How Technology Changed the Art Form, qui justement revient un peu sur toute la naissance de ces contrôleurs et qui insiste sur un point que j'aimerais remarteler à la fin de ma chronique, qui est que l'intérêt de ce genre de contrôleurs, c'est que c'est aussi la démocratisation du DJing et c'est moins cher. C'est moins technique et ça permet à plus de gens de s'y intéresser. Et plus il y a de gens qui s'intéressent au DJing, plus on trouvera de diversité et de choses intéressantes. Je ne pense pas que, au contraire, les choses vont se dégrader. Il y aura juste plus de gens qui auront accès au DJing et c'est pour le mieux.
Youpi!
DJ Thundercat est avec vous ce soir. Yeah. Alors, est-ce que tu as un morceau à nous faire découvrir ce soir?
Ouais, petit morceau que j'ai trouvé sur une chaîne que j'aime beaucoup qui s'appelle VNRD sur YouTube. Je conseille la chaîne. Beaucoup de tracks très très cool dans le genre break, micro, un peu électro des années 90. Et le track s'appelle LB Roberto Carlos.
D'accord, parfait. Eh bien, écoute, on s'écoute ça tout de suite.
Sur Radio Panic 105.4 avec la team Halloween des Acides. On vient tout juste de finir une chronique sur l'évolution du matos de DJ, mais qu'est-ce qui reste encore à explorer pour le DJ? Et je préfère laisser la place à Romain, notre techno fou, qui va nous expliquer sa vision.
Bah, le DJ du futur, pour essayer de s'imaginer un petit peu ce qui va arriver dans nos bras, on va essayer de regarder un petit peu les tendances des dernières technologies qui arrive et qui entoure et qui augmente le DJ. Alors, il y en a une que je relève notamment dans ces dernières années, particulièrement la dernière année. C'est en fait qu'on a l'option ou l'intégration dans les softwares de DJing de track streaming. Le track streaming, ça veut dire qu'au lieu de devoir télécharger ton track, de l'analyser sur Rekordbox ou X et de l'intégrer dans ton software, en fait, tu peux directement faire du DJ en intégrant les plateformes de musique telles que SoundCloud ou Beatport et directement mixer sur les collections et les catalogues proposés sur ces plateformes. Alors, je trouve ça assez intéressant hein, parce que c'est quand même une barrière qui tombe là-dessus. Alors, on peut se dire d'abord que ça se trouve, si c'est du streaming, en vrai, quand tu es en soirée, la Wi-Fi, il ne faut pas compter sur une bonne connexion Wi-Fi. Donc, ça peut paraître un petit peu limitant, mais en fait, il y a même des solutions qui te permettent d'avoir un petit peu une certaine banque de catalogue offline. Et du coup, de préparer ton DJ set en te disant, OK, je récupère tous ces tracks-là offline et en fait, je vais jouer avec celle-là ce soir. Et donc, ça, je trouve que c'est quand même quelque chose qui améliore le workflow du DJ. Et dans cette optique-là, on va mentionner plusieurs. Alors, il y a, comme je disais, SoundCloud. Si tu as un compte SoundCloud Go Plus, donc c'est les comptes premium, ça, tu peux l'intégrer dans Traktor DJ 2 ou aussi Serato DJ. Alors ça c'est sympa, mais c'est pas vraiment SoundCloud, c'est pas encore la plateforme la plus riche en termes de contenu. Celle qui a un peu plus d'importance, c'est quand même Beatport. Beatport, c'est près de 9 millions de tracks, et en fait ils ont sorti le Beatport Link, qui est du coup cette intégration où tu peux avoir accès à tout ce catalogue là. Alors encore une fois, c'est payant. Il y a différents modèles et différents plans. Tu en as un qui est jusqu'à 60 euros par mois où tu peux avoir 100 tracks disponibles offline. Et avec ça, ben, en vrai, ça peut être potentiellement ta plateforme exclusive où là, tu vas récupérer tous tes sons. Et ça, c'est directement déjà intégré dans Rekordbox DJ. Donc, je pense qu'ils ont, bossé pour avoir être les premiers à pouvoir le sortir. Et bon, c'est aussi le standard aujourd'hui dans les gros clubs. Et des non-DJ aussi. Et au-delà de ça, il y a aussi les plateformes comme Tidal qui mettent ça en place aussi. Donc c'est quelque chose que peut-être on va voir les DJ adopter. En tout cas, je trouve que c'est une petite amélioration du workflow qui est pas négligeable. Et notamment pour ceux qui, potentiellement, la nouvelle génération de DJ qui commencerait, je trouve que c'est une bonne façon de commencer sans se prendre la tête avec tout ce pré-processing de track et de mise en place pré-set, quoi. Donc ça, c'était un plan. Mais un autre plan qui est intéressant, c'est aussi l'intégration du DJ set avec l'audiovisuel, la scénographie. On voit ça énormément dans les festivals. Il y a beaucoup de festivals qui mettent un point crucial sur la scénographie, avoir des jeux de lumière qui sont intéressants et qui développent l'expérience du set. Et en fait, il y a des avancées qui permettent en fait de mieux communiquer au VJ, à l'équipe du lighting, ce qui se passe du côté du DJ. Par exemple, il y a Denon DJ qui a bossé avec Resolume Stage Link pour en fait partager les informations du contrôleur du DJ. C'est-à-dire qu'en régie, ils ont accès à tout ce qui se passe en fait sur le contrôleur et ils peuvent taper des contrôles du DJ sur des effets visuels. Et ça peut faire des interactions super intéressantes et tellement réactives à la musique qui se passe que en fait l'expérience audiovisuelle en devient plus imprégnée, quoi. Alors, je peux te donner quelques exemples pour histoire d'avoir une meilleure idée de ce à quoi ça peut ressembler. Imagine que tu as que tu es sur une loupe en train de faire une transition, que tu es sur une loupe. Et bien, à chaque fois que la loupe reprend, ça peut relancer le clip visuel que le régie a lancé. Et du coup, tu as en même temps d'avoir les 16 temps où tu vois là, par exemple, les percussions qui sont en train de se répéter, et bien, tu as aussi le visuel qui se répète. Tu pourrais potentiellement mapper le filtre à un genre de distorsion visuelle pour quand toi tu rajoutes le filtre, tu vois qu'en même temps aussi, tu as l'impression de filtrer l'image et le visu. Tu peux mapper les EQ à des effets de couleur ou de lumière sur tes visuels, etc. Et du coup, avoir vraiment une émergence de cette combinaison de audio et de visuel entre-temps. Donc forcément, ça demande du travail en amont, avant le set, pour que ça fonctionne bien. Mais je trouve que cette dimension d'intégrer encore mieux le visuel avec le son, je trouve ça très intéressant. Et au-delà de ça, le dernier point que je voulais mentionner, c'est un point qui, moi, me paraît très intéressant et potentiellement vraiment le futur du DJ. Le DJ, qu'est-ce qu'il fait à la base? Il mixe des tracks et les présente, et en fait, sa composition fait une composition à partir de tracks qui ont été créés. Il y a quelques années, en 2015, Native Instruments a sorti le file format qui s'appelle Stems, qui te permet d'avoir plusieurs channels, plusieurs voix différentes qui décomposent le track, un petit peu comme si tu avais accès au track, mais avant qu'il soit enfin, en fin de masterisation, mais avant qu'il soit mixé entre lui. Et ça te donne accès à chaque piste. Et en fait, si tu as accès à chaque piste, ben en fait, tu peux faire des transitions vachement plus riches et une intégration de chaque track beaucoup plus personnalisée et en gros composer des tracks avec des tracks différents, de façon encore plus riche que juste les EQ qui vont aller fermer les highs, les mids ou les lows ou quelques filtres pour faire disparaître les artefacts des EQ. Avec ça, tu as vraiment une possibilité de faire une composition riche des musiques ou des tracks que tu plais. Alors, le stem, c'est typiquement quatre voix. Donc, en général, c'est au bon choix du producteur de savoir ce que chaque voix propose. Donc, tu pourras avoir, par exemple, une voix qui fait les vocales, une voix qui fait la percussion, une voix qui fait la basse, une voix qui fait le lead, ou alors qui a tout le reste, les choses comme ça. Alors le stems, c'est intéressant, mais malgré que ce soit sorti en 2015, ça n'a pas spécialement fait un carton. Il y a plusieurs raisons pour ça, de mon point de vue à confirmer, mais en fait, de mon point de vue, les raisons pour lesquelles l'adoption n'a pas été majeure, elle est multiple. Alors d'abord, il faut qu'il y ait une adoption des producteurs, c'est-à-dire ceux qui font les tracks, il faut qu'eux les mettent à disposition en stems. Alors, c'est un peu, je veux dire, c'est pas beaucoup de travail en plus pour le faire, sauf que bon, si tu n'as pas tous les producteurs qui le font, eh bien en fait, toi, tu te retrouves avec certains tracks que toi, tu aimes qui sont en stems et certains qui ne le sont pas. Donc pendant ton DJ set, c'est un peu relou de te dire, ah ouais, bah, quand est-ce que j'ai l'option de faire du stem et quand j'ai pas l'option? L'idéal, c'est que tu as envie que tous les tracks que tu aies, ils soient en stem. Sans quoi, tu commences à naviguer entre des tracks qui le sont, qui ne le sont pas, et ça peut être relou. Donc voilà. Voilà pour les technologies qui vont augmenter le DJ dans les années à venir. Et j'espère que vous en prendrez partie. Donc le track que j'ai sélectionné pour vous, c'est Aist et Kral, un duo d'Allemands de Cologne, qui sur leur album, je vais canarder cet allemand, mais Verflixschlubischunechören, qui veut dire acide, terriblement beau, c'est le track Sour Sapiens. Voilà, écoutez-le, faites plaisir et à la prochaine.